Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 6 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoulia. Les titres pour commencer. Le Maroc, dernière nation africaine dans le Mondial 2022. Le Brésil retrouve Neymar et le football samba pour Pelé. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exhorte le président rwandais Paul Kagame à cesser tout soutien supposé aux rebelles en RDC. Au Niger, deux morts liés à une attaque à Saï, près du Burkina Faso. Au procès du massacre de septembre 2009 en Guinée, renvoie au 12 décembre de la comparution de Moussa Dadis Camara pour raison de santé. En Afrique du Sud, report du vote au Parlement sur une procédure de destitution du président Cyril Ramaphosa. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Tous les regards africains sont tournés vers le Maroc face à l'Espagne. Ce soir, en huitième de finale, le Brésil a surclassé la Corée du Sud 4-1 et enregistré le retour de Neymar hier lundi à Doha pour rejoindre la Croatie en quart de finale, Eric.
En un quart d'heure, le match était plié. Avec Ney et Gronné, Big Nose, le surnom de Richarlison en Angleterre, le Brésil était trop fort pour la Corée du Sud. La Seleção a joué comme un favori, marquant quelques buts délicieux. Un match que le roi Pelé a regardé à l'hôpital depuis sa chambre. Ses héritiers lui ont rendu hommage sur la pelouse au coup de sifflet final, déployant une longue banderole bleue avec en coin sa fameuse célébration en finale 1970, le point levé. Pelé les a vus réciter une mi-temps un football samba digne des plus beaux jours du football. La Croatie, vice-championne sortante, poussée au tir au but par le Japon, a également décroché hier sa place en quart de finale du Mondial 2022 où elle affrontera le Brésil. Toujours en huitième de finale, le jeu de passe de l'Espagne contre l'organisation quasi infaillible du Maroc. Le derby du détroit de Gibraltar promet une belle opposition de style ce mardi. « Nous avons la possibilité d'écrire l'histoire », lance le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui vise un premier quart de finale de Coupe du Monde pour son pays. Comment donc aborder ce duel? Suivez l'analyse d'Amedinci et celle d'Élisée Onkpatine, nos consultants sportifs. Ils se sont exprimés hier dans Sporama.
Il ne faut pas être trop confiant, se dire qu'on va rivaliser avec les Espagnols sur le plan jeu, dont on connaît les Espagnols, c'est un peu c'est Barcelone de la belle époque, hein, les FC Barcelone des Javi et des Iniesta, c'est ça le fond de jeu. Donc je pense que le Maroc va jouer bloc bas et essayer d'exploiter ses contres, puisque le Maroc, je viens de le dire, c'est la meilleure équipe. Leur performance pour le moment, c'est le meilleur représentant africain. Ils jouent sur le plan technique, sur le plan tactique, ils sont très bien organisés et puis ils ont des joueurs de dimension internationale comme Hakim Ziyech, comme Hakimi, qui sont en train de faire un bon tournoi. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut négocier, pouvoir négocier. Quand c'est le temps fort de l'adversaire, souffrir, faire le dos rond, après essayer de profiter de leur situation pour pouvoir marquer. Et les statistiques leur donnent raison, hein. Ils ont une excellente défense. Et comme on dit, quand on défend bien dans un match de football, tu as presque 80% de chances de gagner. Parce que quand tu n'encaisses pas, cela veut dire que tu ne dois pas perdre ce match.
Samedine, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Oui, mais pas attaque à outrance. Pour attaquer, il faut avoir le ballon. Quand tu n'as pas le ballon, tu ne peux pas attaquer. Et avec les Espagnols, on sait qu'ils vont confisquer le cuir. Ça, c'est sûr et certain. C'est leur philosophie. Donc, chacun doit aller avec ses armes.
Élisée, le jeu de passe de l'Espagne contre l'organisation quasi infaillible du Maroc, qu'est-ce que vous prédisez?
Jouer sur le mental, il faut le dire, puisque en matière de technique, l'Espagne est très forte, il faut le dire. Mais nous ne voilons pas la face. Maintenant, le Maroc aussi doit pouvoir gérer cet enfant qui se fait de ça, qu'il s'agit là, souffrir, comme l'a dit Amédine. Et puis, à la moindre occasion, faut être réaliste, parce que les occasions seront rares, donc il faudra pouvoir les exploiter au moment opportun.
Le Maroc, nouvelle génération, s'est hissé vers les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986. Il a fait en sortant premier d'un groupe F relevé avec la Croatie, la Belgique et le Canada et en encaissant un seul but, soit la meilleure défense du tournoi. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe.
Bonjour. Le dernier représentant africain encore en lice pour poursuivre l'aventure qatari descend dans l'arène ce soir. Il s'agit du Maroc, assurément le plus fiable de cette équipée fantastique dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Les Lions de l'Atlas sont les seuls Africains à être sortis premiers d'une poule, de surcroît relevés, comme ce fut le cas lors de leur meilleure prestation au Mexique en 1986, où la génération dorée des Bouderbala, Timoumi et autres Badouzaki avait enrhumé l'Angleterre et la Pologne avant de sortir contre toute attente en huitième de finale. Mais cette fois-ci, la réussite du Maroc n'est pas liée au hasard d'une génération opportune, mais plutôt l'aboutissement d'une dynamique de modernisation du football au royaume chérifien qui commence à porter ses fruits. Une victoire ce soir contre l'Espagne, tenue en échec au dernier mondial, peut permettre aux Lions de l'Atlas de passer un nouveau cap et même de rêver d'une place dans le carré d'as de la Coupe du Monde que toute l'Afrique attend en vain depuis 1990. Le groupe actuel en a les moyens, il n'y a plus qu'à croiser les doigts.
À suivre également ce soir Idrissa dans la dernière huitième de finale, le Portugal contre la Suisse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exhorte le président rwandais Paul Kagame à cesser tout soutien supposé aux rebelles en République démocratique du Congo, selon un communiqué du département d'État lundi, Nanit Talani.
Lors d'un appel dimanche, le chef de la diplomatie américaine a dit clairement que tout soutien externe à des groupes armés non étatiques en RDC doit cesser, y compris le soutien du Rwanda au M23, affirme le porte-parole du département d'État, Ned Price. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23, ancienne rébellion Tutsi, ce que conteste Kigali. Anthony Blinken a partagé sa profonde préoccupation à propos de l'impact des combats sur les civils congolais qui ont été tués, blessés ou déplacés de leur domicile, ajoute Ned Price. Le secrétaire d'État a exhorté les deux pays à respecter l'accord négocié le mois dernier par l'entremise de l'Angola, ordonnant un cessez-le-feu suivi du retrait des rebelles des positions conquises, mais aucun retrait n'a été observé à ce jour. Anthony Blinken a également condamné la résurgence des discours et des incitations publiques à la haine qui ciblent le Rwanda. Il a rappelé au souvenir des conséquences réelles et horribles d'une telle rhétorique par le passé, allusion au génocide rwandais de 1994.
Le gouvernement congolais a revu lundi à la hausse à environ 300 morts le bilan de ce massacre de Kishishe dans le Nord Kivu. Ce chiffre a été avancé par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, ancien gouverneur de cette province, lors d'un point de presse animé par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. L'armée avait accusé jeudi le M23 d'avoir massacré au moins 50 civils dans le village et le gouvernement a parlé le lendemain de plus d'une centaine de morts. Le mouvement rebelle a donc rejeté de telles accusations et a reconnu la mort de 8 civils à Kishishe, tués selon lui par des balles perdues lors de combats avec des miliciens. Au Niger, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier soir qu'un agent des eaux et forêts a été tué lors d'une attaque dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud-ouest du Niger, près du Burkina Faso. Il dit aussi qu'une femme est morte et une autre a été légèrement blessée lors de l'opération de ratissage qui a suivi. Selon un communiqué, l'attaque a visé le poste de contrôle mixte entre police, gendarmerie et les eaux et forêts de Saï, une ville située à une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Elle a été menée par des individus armés non identifiés venus à bord d'un véhicule et plusieurs motos, mais la prompte et vigoureuse réaction des forces de défense et de sécurité a obligé l'ennemi à battre en retraite, assure le ministère de l'Intérieur. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de cette attaque criminelle. Procès du massacre du 28 septembre en Guinée, la comparution tant attendue de l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara a été de courte durée. Elle a été renvoyée pour raison de santé, Abdourahmane Dia.
Moins de 12 minutes après avoir appelé à la barre le capitaine Dadis Camara, le président de la Cour a prononcé le renvoi de l'affaire au 12 décembre avec ces mots. « Vous avez une semaine, monsieur Camara, l'audience est levée. » L'ancien leader militaire, âgé de 57 ans, a plaidé pour le renvoi en invoquant sa santé. Le capitaine Camara répond depuis le 28 septembre 2022 avec une dizaine d'anciens responsables militaires et gouvernementaux du massacre perpétré 13 ans plus tôt, jour pour jour. Des dizaines de personnes réunies dans un stade de Conakry contre sa candidature à la présidentielle ont été massacrées. Des dizaines de femmes ont été violées, des individus séquestrés et torturés. Écarté quelques mois après le massacre, exilé ensuite au Burkina Faso, Moussa Dadis Camara a été emprisonné après être rentré pour le procès. Le gouvernement guinéen espère que le procès aura un effet de réconciliation et permettra aux Guinéens de tourner le dos définitivement à la violence d'État.
Au Tchad, un tribunal dans une prison de haute sécurité en plein désert a infligé 2 à 3 ans de prison ferme à 262 personnes arrêtées lors d'une manifestation contre le régime et réprimées dans le sang en octobre, à l'issue d'un procès de masse à huis clos sans avocat et sans médias indépendants. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, menacé de destitution après un scandale au relent de corruption, a lancé hier une contre-attaque et rallié le soutien de son parti, l'ANC, au pouvoir. Et le Parlement vient d'annoncer repousser le vote sur une éventuelle procédure pour le démettre de ses fonctions, Michel Joseph.
Nous sommes tous d'accord sur la date du 13 décembre, a déclaré un responsable sud-africain tard dans la soirée lors d'une réunion spéciale de programmation. Le report a été justifié par la nécessité de donner à chaque élu le temps de se rendre au Cap où siège le Parlement pour un vote, décrit par certains députés comme sans précédent. Le Parlement devait décider mardi, en session extraordinaire, de lancer ou non une procédure de destitution sur la base d'un rapport parlementaire. Une commission indépendante a conclu la semaine dernière que le président a pu commettre des actes contraires à la loi dans le cadre d'une sombre affaire gênant depuis des mois M. Ramaphosa, ouvrant ainsi la voie à une procédure de destitution. Une plainte déposée en juin l'accuse d'avoir tenté de dissimuler à la police et au fisc un cambriolage dans l'une de ses luxueuses propriétés. Les malfaiteurs avaient remporté en février 2020 $580 000 en liquide camouflé sous les coussins d'un canapé. Plus tôt dans la journée, lundi, le président Ramaphosa avait lancé une contre-offensive, saisissant la Cour constitutionnelle pour que le rapport parlementaire et ses suites, dont le vote au Parlement, soient revus, déclarés illégaux et rejetés. Le même jour, l'ANC au pouvoir est venu à sa rescousse. À l'issue d'une réunion au sommet à Johannesburg, les caciques du parti historique ont annoncé qu'ils s'opposeraient à un vote pour engager une procédure de destitution.
En bref, l'Ukraine s'est forcée mardi de réparer ses installations énergétiques endommagées par une nouvelle salve de missiles russes et de réapprovisionner les Ukrainiens privés de courant et d'eau au moment où des températures polaires frappent le pays. Des puissances occidentales ont mis en doute lundi la portée de l'annonce surprise d'une abolition de la police des mœurs en Iran après bientôt 3 mois de manifestations consécutives à la mort en détention de Mahsa Amini, accusé d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Rien n'indique, selon Washington, que la situation des femmes dans le pays allait s'améliorer. En Indonésie, le Parlement a adopté ce mardi des amendements législatifs interdisant les relations sexuelles avant le mariage et apportant d'autres modifications importantes au code pénal du pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Glencore, le géant du négoce des matières premières basé en Suisse, annonce qu'il va payer 180 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec la République démocratique du Congo pour solder les litiges concernant des accusations de corruption. Eddy Issangou a joint à Paris un militant de la lutte contre la corruption, membre du réseau panafricain UNI, et de Congo n'est pas à vendre. Jean-Jacques Lumumba.
Ma réaction, c'est d'abord une réaction de déception parce que, premièrement, Glencore reconnaît explicitement avoir eu à faire partie des affaires de corruption en RDC. Et ça, c'est assez triste. Et deuxièmement, je me demande sur base de quoi, pendant toutes ces années, Glencore et le gouvernement congolais ne peuvent évaluer cette question à 180 millions de dollars. Je ne sais pas sur base de quelle étude le gouvernement congolais peut accepter de brader 10 ans d'exploitation minière face à une société et ne prendre que de ce que je considère comme des miettes. Et je crois que c'est assez désolant pour mon pays et désolant pour les autorités congolaises.
Mais quelles en seront les conséquences? Est-ce que cela ne va pas permettre plutôt au gouvernement congolais de continuer à collaborer avec Glencore parce qu'on sait qu'on voit que le gouvernement congolais a besoin d'argent?
Si les États-Unis ont pu mettre la pression à Glencore qui a laissé des milliards et a laissé plus que ce que Glencore ne va verser à la République démocratique du Congo, c'est comme si nous négocions en position de faiblesse alors que nous sommes dans notre droit non seulement de laisser cette affaire pendante pour punir toutes les personnes qui ont été partie prenante dans cette question de corruption. Je vais citer par là le régime de l'ancien président Joseph Kabila, mais il y a lieu de faire une enquête pour savoir quel est le vrai manque à gagner de la République démocratique du Congo et quels sont les acteurs qui doivent être punis. C'est trop facile d'accepter de l'argent et de faire fi de la justice. C'est le problème de l'impunité que nous cessons de dénoncer au Congo. Le Congo ne peut pas être le nid de l'impunité et la réserve de l'impunité de l'humanité tout entière. Ça ne fait que perdurer de cela il y a déjà plusieurs années. Et tout le monde sait que s'il fait quelque chose au Congo, on le voit pour des questions de la sécurité. Il faut venir négocier avec les autorités, payer quelque chose au mépris de la justice. Et je crois que c'est triste et c'est désolant. Et des choses comme ça ne peuvent pas être acceptées. Et c'est triste de le dire, mais accepter un paiement comme ça, c'est passer l'éponge. Et c'est malheureux pour une nation comme le Congo qui se veut digne et pour un gouvernement qui se veut être un gouvernement d'état de droit. On ne peut pas parler d'état de droit quand on fait fi de la justice. J'accepterai que Glencore paye de l'argent, mais après qu'il y ait des actions judiciaires contre cette société. Et malheureusement, c'est la République démocratique du Congo qui est ridiculisée, je pèse bien mes mots, ridiculisée, en acceptant des accords qui n'ont ni tête ni queue et qui ne viennent pas sur base d'une évaluation claire.
Vous ne voyez pas que c'est un peu semblable à ce qui s'est passé en mai 2022 quand Glencore a accepté de payer 700 millions de dollars pour fraude et corruption pour des affaires qui se sont passées au Brésil, au Cameroun, au Nigeria, au Venezuela?
Ailleurs, on paye des sommes beaucoup plus importantes et chez nous, nous qui sommes, comme le dit si bien le gouvernement congolais, le pays solution, mais c'est le pays solution où tout le monde vient marcher dessus.
Qu'est-ce que vous dites en voyant ce qui se passe après l'accord du gouvernement avec Glencore?
Le gouvernement congolais doit cesser de faire de la lutte contre la corruption un simple slogan.
Jean-Jacques Lumumba, militant de la corruption, membre du réseau panafricain UNI, et de Congo n'est pas à vendre.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Les milieux de la presse au Burkina Faso dénoncent une atteinte à la liberté d'expression suite à la décision prise samedi par le gouvernement portant suspension immédiate jusqu'à nouvel ordre de la diffusion des programmes de RFI, Radio France Internationale, sur toute l'étendue du territoire national. Une décision prise, selon le gouvernement, au regard de nombreux manquements. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'annonce est faite par le porte-parole du gouvernement lui-même. Une suspension de RFI, Radio France Internationale, au regard de nombreux manquements, selon le communiqué du gouvernement. Au moins 3 papiers du média sont épinglés, mais les professionnels des médias ne trouvent pas suffisants les arguments avancés par le gouvernement pour suspendre RFI. Boukari Ouba est le secrétaire général de l'Association des journalistes du Burkina et par ailleurs membre du Centre national de presse Norbert Zongo.
La décision des autorités burkinabè de suspendre la diffusion de RFI sur le territoire burkinabè est une décision que nous estimons gravissime, une décision qui va... Sans nul doute à l'encontre de la liberté d'expression et de la liberté de la presse en particulier. C'est une décision, de mon point de vue, irrégulière. Mais je dois dire aussi que c'est une décision qui ne me surprend pas du tout. Il y a déjà eu un premier communiqué qui mettait en garde la Radio France Internationale. Et à l'époque, j'avais déjà vu par là une façon pour les autorités burkinabè de préparer les esprits à cette décision.
Bourema Ouedraogo, lui, est directeur de publication du bimensuel Le Reporter et président de la Société des éditeurs de la presse privée.
Nous pensons effectivement que chaque fois que un média est suspendu, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est un espace de liberté qu'on restreint. Et dans tous les cas, il semble effectivement nécessaire qu'on regarde cette situation et nous assurer effectivement qu'elle est conforme à la législation en vigueur au Burkina Faso. Nous pensons effectivement qu'il y a nécessité qu'on apprécie et froidement la décision et donner la lecture qui s'impose.
Charlemagne Abissi, directeur général du groupe Savan Media, estime qu'il s'agit d'une décision souveraine du gouvernement et il faut la respecter comme telle.
Il faut reconnaître que le contexte particulier du Burkina Faso demande que justement il y ait une forme de traitement qui ne permettent pas donc de jeter le feu hein, dans ces conditions un peu fragiles et de frilosité. Mais cela dit, ça touche de façon très très profonde donc à cette liberté d'expression avec les lignes éditoriales des différents médias donc qui doivent être respectées. Bon, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, c'est une décision souveraine qu'il faut respecter. Et qu'il faut accepter comme tel, parce que les conditions sont particulières, parce que la situation est exceptionnelle.
Le gouvernement dit tenir par ailleurs à réaffirmer à l'opinion nationale et internationale son attachement à la liberté de la presse et d'opinion, mais également au droit du public à l'information. Il a invité au respect des règles et principes édictés en la matière dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La CEDEAO a décidé de mettre en place une force régionale devant intervenir non seulement contre le djihadisme, mais aussi en cas de coup d'État. Cette annonce a été faite pendant le week-end à l'issue d'un sommet des chefs d'État à Abuja. Cette force régionale interviendra en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres, selon Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. Pour en parler, Abdourahmane Dia a joint à Bissau Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute.
D'abord, l'intention est bonne de faire de sorte que les pays ouest africains gèrent leur sécurité eux-mêmes et sortent de cette délégation de souveraineté et de sécurité qui exigeait que l'on fasse appel à des forces étrangères, notamment des pays ou comme on l'a vu récemment, à d'autres structures. Partant de cela, c'est une prise de conscience qui était nécessaire. Que la sécurité soit prise en charge par les pays qui sont concernés et par les organisations régionales ou sous-régionales telles que la CEDEAO. Et d'ailleurs, la CEDEAO dit bien qu'elle décidait de recalibrer son architecture sécuritaire. Mais il y a toujours ce décalage très souvent noté entre les bonnes intentions, les grands projets et les moyens à mettre à disposition.
Alors, est-ce qu'il n'est pas quand même plus réaliste de séparer les deux aspects, d'un côté la lutte contre le terrorisme et de l'autre le retour à l'ordre constitutionnel?
La CEDEAO part d'une conclusion sur laquelle il y a une relation intrinsèque entre la prise du pouvoir par les militaires et le constat de l'échec de la lutte contre le terrorisme et la gestion de la sécurité. Et donc, c'est certainement c'est ça qui a conduit à lier les deux, mais cela va quand même produire une forme de mélange des genres. Certes, nous avons vu par le passé qu'il y a eu des forces comme Ecomog et d'autres qui ont pu gérer des situations pour ramener à l'ordre constitutionnel. Maintenant, je pense que c'est une nouvelle stratégie qui vise à combiner la gestion des urgences sécuritaires, mais aussi la gestion de tous ces problèmes qui peuvent conduire à l'instabilité, elle-même productrice d'insécurité.
Et effectivement, selon vous, quelle va être l'attitude des pays dirigés par des militaires en ce moment dans la région? Je pense notamment au Mali et au Burkina Faso, surtout, mais également en Guinée.
Cela va être très difficile, d'autant plus que ces différents régimes militaires actuellement au pouvoir issus de coups d'État brandissent toujours le principe de la souveraineté. Mais je pense que là, c'est une prise en main de deux questions importantes, celle de la gestion des instabilités politiques et de l'insécurité. Mais à mon avis, l'écart est encore là entre les bonnes intentions d'une part, les stratégies communautaires et les moyens de mise en œuvre, les moyens aussi bien financiers mais aussi politiques, qui requièrent une forme de légitimité que l'organisation sous-régionale doit quand même reconquérir.
Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée du 3 décembre consacrée aux personnes en situation de handicap, notre correspondante Delphine Boïse est allée à la rencontre de personnes handicapées visuelles exerçant des professions au parcours atypique.
Maître Brigitte Mensa, épouse Roger Gouria, est avocate au barreau d'Abidjan. Elle est aussi membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et devenue non-voyante depuis 2005.
C'est en cours de vie. J'exerçais déjà comme avocat et puis à la suite d'une maladie, pour vous dire que le handicap peut arriver à tout le monde, à la suite d'une maladie, une méningite cérébrale, j'ai perdu la vue.
Kwaku Assouman Jules Juslin, lui est bilingue professionnel, interprète, traducteur.
Je suis non-voyant depuis la naissance. Et comme j'avais une passion qui est la langue anglaise, après ma formation à l'Institut des aveugles de Yopougon en écriture braille, j'ai décidé de me rendre au Ghana. Les écoles que j'ai faites au Ghana, j'ai été le seul non-voyant parmi les personnes valides. D'abord à Ghana Institute of Languages et puis au Center of Languages and Professional Studies.
Maître Brigitte Mensa Roger Gouria et Kwaku Assouman Jules Juslin ont réussi à surmonter leur handicap. L'avocate nous dit comment elle conduit et suit les dossiers de ses clients.
J'ai une très bonne équipe, j'ai des collaborateurs qui m'assistent véritablement et qui me prêtent les yeux, ce qui me permet de savoir ce que les documents ont écrit noir sur blanc me le disent. Donc je suis obligé de faire travailler ma mémoire pour pouvoir développer mes arguments. Nous faisons les jeux de rôle. Une fois que tout cela est dans la boîte, nous pouvons maintenant rédiger nos écritures ou bien aller plaider. À force de travail, la clientèle commence à revenir.
Et Kwaku Assouman Jules Juslin donne des cours en ligne en attendant un point de chute.
J'ai créé un groupe WhatsApp qui me permet de dispenser mes cours d'anglais. Le titre est English Service, donc c'est un logiciel lecteur d'écran. Quand cette application est installée, tout ce que je fais sur le téléphone, elle me lit.
Et si l'avocate a un boulot stable, ce n'est pas le cas pour Kwaku Assouman, bilingue professionnel, mais qui fait d'autres petits métiers pour s'en sortir et refuser de tendre la main.
Aujourd'hui, je propose les produits de ménage, les produits de nettoyage, le savon liquide pour l'entretien de la maison, pour la lessive.
Présidente fondatrice de l'ONG, Mouvement ivoirien des citoyens handicapés depuis juillet 2011. Et au bout de l'effort, cette récompense, affirme l'avocate.
Nous avons une grande campagne pour sensibiliser à la paix de 2020 à 2021 avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, ce qui nous a valu le prix national des droits de l'homme. Le prix pour la valorisation des compétences féminines m'a été décerné en 2018 avec un appui mon époux en filigrane. Il a été le seul mari qui a été autorisé à venir recevoir le prix avec moi.
Et la vie continue, même si elle a basculé dans le monde des non-voyants. Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à